les lycéens des Hauts-de-France au printemps de Bourges.
Bonjour Lucien, peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît ?
Salut, moi c'est Mercure Nitro et j'ai un projet de musique. J'étais inouï au printemps de Bourges cette année en 2026 et vous êtes venu me voir hier je crois.
Pourrais-tu nous parler un peu plus de tes goûts musicaux s'il te plaît ?
Alors j'ai des goûts musicaux qui sont très variés. J'aime beaucoup la musique que je fais et j'aime beaucoup aussi toutes les autres musiques. C'est assez vaste. Je pense qu'il y a des choses bien dans tout, non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ilou ?
Oui, effectivement, moi aussi, j'aime un peu de tout. Comment définirais-tu ton style de musique ?
Ah ben justement, un petit peu au milieu de tout ce que j'aime comme style de musique. Donc, il y a des petites... inspirations de musique anglaise punk, post-punk. Il y a des groupes comme les Cure, par exemple, qui sont connus dans ce style-là de musique. Et puis, on a aussi des petites inspirations de musique anglaise, russe, électronique, donc musique, art basse musique, hein, avec ce kick et cette basse. Voilà. Il y a aussi tout un univers qui se rapproche un peu du jeu vidéo, au niveau des synthétiseurs. Et puis le rap, c'est ma technique vocale, mais c'est plus ici utilisé comme un outil pour s'exprimer que comme une référence musicale. Le projet n'est pas vraiment hip-hop ou s'inscrit pas forcément dans cette culture-là.
Tu viens de dire que ça te permet de t'exprimer, ça veut dire que tes paroles ont un sens ?
Et tu m'as demandé si mes paroles avaient un sens ?
Dans le sens, veux-tu faire passer un message à travers elles ?
Ah, quel message je cherche à faire passer à travers mes paroles ? Parce que j'espère que quand on s'exprime et qu'on formule des paroles, généralement c'est pour faire passer un message, quoi. Parce que sinon, il vaut mieux se taire. Mais du coup, je sais pas vraiment si ça dépend des morceaux. Et je pense quand même que le message que j'essaye de faire passer, c'est quelque chose qui renvoie à la douceur et à la dérision. C'est avant tout des sourires que j'essaye de partager.
Alors, comment as-tu vécu ton concert au 22 hier ?
Eh bien, le concert au 22 hier, c'était trop bien. Vous y étiez. Merci beaucoup.
As-tu une technique pour gérer ton stress avant de monter sur scène ?
Est-ce que j'ai une technique pour gérer mon stress ? L'accepter. Parce que c'est vrai qu'une heure, deux heures avant de monter sur scène, bah... Je fais les 100 pas, moi je suis quelqu'un très actif, donc je sécrète beaucoup du stress, mais c'est pas du stress en mode « oh là là, ça va être nul, oh là là, ça va mal se passer », quoi. C'est comme on a l'habitude d'en employer le mot « stress », c'est plus que mon corps, en fait, il sécrète quelque chose de fort qui va me permettre d'arriver pétard sur scène. Et donc du coup, bah, j'accepte ça... Les gens le savent, ils savent qu'ils me parlent, mais que je vais pas répondre non plus des trucs incroyables parce que je suis dans mon truc. Donc c'est comme ça que je gère tout ça.
Après y avoir assisté, la première question que les gens se posaient était « Où as-tu rencontré ton coéquipier Marmotte, surtout au vu des chansons Rien qui bouge ?»
Mais ouais, et après ce qui est marrant, c'est que tu vois Rien qui bouge parle pas forcément de Marmotte. Marmotte, je le connais depuis 2 ans. 2 ans et demi maintenant. Pour le premier concert de Mercure Nitro, quand on m'a dit il était question de trouver un acolyte pour partager la scène, et puis on m'a présenté Marmotte parce qu'il fait de la basse et de la musique électronique et qui pourrait accompagner le projet que je faisais. Et puis c'est devenu une super belle histoire d'amitié, et c'est vrai que maintenant on passe beaucoup de temps ensemble tous les deux avec Marmotte. Et Rien qui bouge, ça parle d'amitié, d'amis avec qui j'ai grandi dans mon village aussi, hein, de tout petit village, Blérancourt, en Picardie, en 02. 2000 habitants, un truc comme ça. Donc j'ai des amis que j'ai rencontrés quand j'avais 3 ans, 4 ans, que j'ai toujours dans ma vie aujourd'hui, avec qui on joue aux jeux vidéo sur Discord, même s'ils habitent loin ou ailleurs. Et donc ça parle surtout de ces relations-là. Puis de toutes les relations d'amitié que j'ai eues dans ma vie. C'est important de garder ses amis. Très important.
D'où vient ton inspiration pour composer tes paroles ?
On en avait parlé avant le concert, c'était une question qui était déjà venue quand j'étais passé vous voir. L'inspiration pour trouver les paroles, je ne sais pas encore. Ça dépend des sujets, là, en l'occurrence, de mes amitiés, pour rien qui bouge. Vous avez retenu bien le titre de la... Alors, c'est marrant, ça m'a fait... elle est forte cette chanson. Donc j'ai puisé dans toutes mes histoires d'amitié et en fait c'est assez tressé un petit peu. Il y a deux phrases qui parlent d'une personne, deux phrases d'une autre, deux phrases d'une autre. Ça finit par créer un texte, un grand texte sur l'amitié, mais c'est tressé avec le vécu que j'ai avec des gens. Donc par contre le fait de se dire tiens si j'écrivais un son sur l'amitié qui s'appellerait Rien qui bouge, j'ai du mal à l'expliquer d'où ça vient. Ça vient comme ça un jour.
Donc c'est pas quand les paroles que t'écris viennent pas de vécu à toi forcément.
Ah si carrément. Bah rien qui bouge, c'est ce que je te dis, c'est un espèce de composite entre mon vécu avec plein d'amis. J'ai pas un ami avec qui on a grandi dans le même bled et on a écrit des textes ensemble. Mais j'ai un ami avec qui on a écrit des textes. J'ai un ami avec qui j'étais à l'université, avec qui on a écrit des thèses. J'ai un ami avec qui on était dans le même bled. Et après, bled, thèse, texte, ça commence à faire des rimes, ça commence à faire un texte et ça se mélange. Et puis justement, ça touche un peu ce truc d'universel de l'amitié qui fait que ça passe à travers les amitiés. Ça parle aussi de Sofiane, avec qui j'ai vécu pendant 8 ans... un super bon ami. Donc c'est carrément mon vécu. Les textes aussi, il y a 3-4 textes, ça vous a peut-être pas forcément parlé là, à votre âge, qui parlent de rupture amoureuse, de cœur brisé, et j'en joue, je rends ça un petit peu rigolo, mais c'est des réelles ruptures que j'ai vécues qui m'ont rendu très triste, et les mots que j'emploie, que j'apporte avec mon personnage dans de la dérision, sont en réalité à la base des mots que j'ai employés, un peu comme sur un journal intime en fait. Et le fait d'arriver et de dire dans mon personnage, je suis triste, je suis trop triste et tout, c'est drôle et à la fois c'est vrai aussi, on l'est tous tristes. Donc il y a quelque chose d'authentique, même si c'est un personnage un peu.
Quel est le processus pour inventer une nouvelle mélodie encore inexistante ?
Le processus pour inventer une nouvelle mélodie encore inexistante. Alors, mélodie, faut qu'on s'entende bien sur ce que c'est. Hein. Si c'est les synthés, les thèmes de synthétiseurs, ou si c'est à la voix ce que j'interprète. Parce qu'à la voix, moi, il n'y a pas beaucoup de mélodies, en l'occurrence, c'est très parlé, très rappé. Et puis au niveau des synthés, moi, je n'ai pas fait le conservatoire, en fait. J'ai fait de la musicologie à l'université et j'ai appris un peu le solfège sur le tas. Mais j'ai jamais été, et je ne suis toujours pas un vrai crack du solfège. Donc j'ai pas cette faculté à arriver derrière un clavier et à savoir exactement ce que je fais pour composer la mélodie. Mais j'ai quand même des bases. Donc je passe beaucoup de temps en fait à appuyer sur les touches chez moi. Et à me dire oh, ça me plaît, ça me plaît pas. Alors que si j'avais un petit peu plus de bagages aussi, je pourrais aller plus vite. C'est pour ça aussi que sur ma route, j'ai rencontré Marmotte. Et là, sur Rien qui bouge, ou pas mal d'autres musiques, Mouchou, que vous avez entendu hier, ou le double single qui est sorti récemment, c'est Marmotte qui trouve beaucoup la mélodie. Moi, je viens poser des petites mélodies après, avec ma naïveté, des petites notes par-dessus, mais c'est lui qui va poser vraiment la grille harmonique et ces choses-là au morceau, parce qu'il a un bagage d'éducation musicale qui permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. Et le plus important dans la musique, et lui, Marmotte, apprécie énormément ce que j'ai composé seul aussi, au niveau des mélodies, etc. Le plus important dans la musique, c'est d'écouter ce qu'on fait. Et on a tous un apprentissage de la musique parce qu'on l'a entendu depuis tout petit, on est exposé à la musique. Et donc en fait, quand tu entends une fausse note, et ben, tu le sais que c'est une fausse note, pourtant tu n'as pas fait de solfège. Donc c'est un petit peu pareil devant ton clavier, tu peux aussi composer avec l'ordinateur en écoutant et en testant chaque touche. Et je me suis peut-être un petit peu égaré. Mais tout ça pour dire que le plus important quand on fait de la musique, c'est de s'écouter et juste de chercher à travers le sens à apprécier ce qu'on fait et avancer. Et c'est comme ça qu'on peut créer une mélodie. Et ensuite, quand on a un bagage musical et de la théorie, ça peut permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans ce processus-là. Mais c'est pas forcément parce qu'on l'a pas qu'on peut pas trouver de mélodie, en tout cas.
D'accord. Et il n'y a pas cette peur, justement, de plagier
finalement parfois de via nos souvenirs de musique entendue faire quelque chose sans s'en rendre compte qui ressemble.
Excellente question, c'est incroyable comme question ce que tu me demandes. Et ben justement sur le premier EP, il y a un morceau qui s'appelle Lovecore où je fais un petit peu comme si j'étais ivre et je parle pas beaucoup sur le morceau et je dis elle me parlait d'amour, elle s'est barrée un jour, vous voyez ce morceau là. Donc ce morceau là il commence par une ligne de basse parce que j'ai voulu piocher au registre un peu post-punk, qui commence par une ligne de basse qui fait vachement penser quand même à un morceau qui s'appelle Euphorest des Cure. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément le morceau que j'écoutais, parce que moi j'écoutais beaucoup plus le premier album des Cure avec le frigo Three Imaginary Little Boys, je crois il s'appelle, un album rose avec un frigo, et Euphorest et tout, j'étais un peu passé à côté en fait finalement de ça. Et maintenant à chaque fois que les gens écoutent la musique ils me disent tout le temps ah ouais mais c'est trop une référence au Cure, parce que ça ressemble. Je crois que il y a quand même des notes à la fin de la boucle qui sont changées, c'est pas exactement la même, mais c'est sûr. Mais à la fois c'est parce qu'aussi j'ai voulu aller piocher dans ce bagage de sonner un peu comme ça pour créer, comme je te disais tout à l'heure, un truc un peu hybride dans ma musique. Et donc j'ai reproduit, mais on reproduit toujours en fait. Et finalement, la question du plagiat, c'est une question qui se pose réellement. Qu'est-ce qui est de l'ordre du plagiat ou non ? Prendre, comme ça peut avoir lieu... Et ça, c'est les histoires de l'industrie. Un hit d'il y a 20 ans pour en faire un remix aujourd'hui pour être dans le top des ventes. Parce qu'en fait, si c'était dans le top des ventes il y a 20 ans, ça le sera toujours aujourd'hui. Ça, c'est leur monde où on possède des droits et on fait de l'argent. Maintenant, sans parler de ces quatre figures-là, la notion du plagiat, elle peut quand même se remettre en question. Des notes et des combinaisons de notes, il n'y en a pas des milliards. Et si ça t'intéresse, il y a un truc en musicologie que j'avais vu qui s'appelle la redite wagnérienne. Le langage des notes, le système tonal, c'est une langue. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable dans l'histoire de la musique, c'est qu'après Wagner, qui est un compositeur, il était question de redite wagnérienne, c'est-à-dire que toutes les combinaisons peuvent se retrouver dans l'œuvre de Wagner. Et que donc les compositeurs se sont intéressés après à autre chose, parce qu'en fait... C'est comme s'il avait déjà tout dit. Donc, apparemment, on est obligé de plagier Wagner en musique. Et c'est pour ça que cette notion du plagiat, elle est un petit peu ridicule. Il y a aussi un truc où, si Jean-Jacques Goldman, je crois qu'il n'est plus là, je ne sais pas. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce personnage. Mais ce que je sais, c'est qu'il a déposé énormément de suites, d'accords. Et s'il faisait valoir ses droits et ses dépôts, il ruinerait la SACEM qui est l'organisme. Et ça, c'est un truc un peu à réfléchir de société, je ne sais pas. Est-ce que des suites d'accords, on peut vraiment les déposer et avoir de la propriété intellectuelle dessus ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Lilou.
Bah, je pense qu'effectivement, en soi, dans une musique, on ne peut pas à chaque fois innover et recréer totalement quelque chose de nouveau parce que à la fin, ça se retrouve forcément. Maintenant, je pense qu'il y a une notion des fois de droit de propriété, d'ailleurs, sur les morceaux, de droit d'auteur. Et c'est ça le risque. Par exemple, j'avais vu que la musique de Coolio, Gangster Paradise, avait failli ne pas pouvoir passer parce qu'elle avait repris un son de quelqu'un qui l'avait déjà fait avant. Et au final, ils ont réussi à s'arranger à la dernière minute.
Quelle est ta chanson préférée parmi celles que tu as composées ?
Ma chanson préférée parmi celles que j'ai composées, enfin, je les aime toutes, franchement. C'est un peu comme si t'avais trois enfants et que je te demandais c'est lequel que tu préfères. Tu me dirais, lui il a ce point fort, elle est forte pour ça, et je les aime tous les trois pour leurs différences, mais tu te dirais pas il y en a un que je préfère aux autres. Mais par contre, il y a quand même un truc, j'en parlais récemment, il y a un morceau qui est vraiment au milieu du live que vous avez vu qui s'appelle « Triste cire ». Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le texte que j'aime le plus interpréter. C'est pas ma musique préférée, et elle n'est pas mieux que les autres, mais à l'heure actuelle, c'est le morceau dans lequel je me sens le mieux, et dans lequel je me sens le mieux quand je le rappe sur scène. Parce que à la fois il met une claque, à la fois ils critiquent beaucoup. Et à la fois, il y a ce truc aussi de douceur où ça me fait trop plaisir, en fait, de débarquer devant les gens et de dire « je suis triste, est-ce que vous êtes triste ?» De blaguer autour de ça, de créer un espace où ça peut exister dans un monde où ça a plus trop le droit d'exister, quoi. Tu viens pas sur une scène pour dire que t'es triste, en fait. Faut être fort. Et puis, enfin, je sais pas. Ça me fait rire, en fait.
Que penses-tu de la réduction du budget pour la culture dans le budget de l'État? Et quels en sont les impacts sur ta carrière?
Eh ben, waouh! Super intéressant. La réduction du budget de la... Je sais pas si... Moi, je ressens la... Enfin, quand tu dis la réduction, c'est... Est-ce que tu parles d'un mouvement un peu continu qui vise à appauvrir l'art? Ou est-ce que tu parles de mesures récentes de Rachida Dati, Lilou?
Globalement, d'année en année, ça réduit. Et par exemple, aujourd'hui, la culture, c'est moins d'1% du budget global. Et justement, la question, elle se pose, c'est si on continue de réduire comme ça, quel impact ça aura sur les artistes, mais aussi tous les gens qui vivent grâce aux festivals qui sont organisés. On peut penser aux commerçants, mais aussi aux festivaliers, à l'accès à la culture, des jeunes, etc. Et donc là, en l'occurrence, toi, dans ta carrière, en quoi ça pourrait t'impacter si, par exemple, les petites salles venaient à disparaître, etc.
Alors, pour répondre à la première question, ça ne m'impacte pas tout de suite parce que je ne reçois pas de thunes de toute façon de la musique. Donc, mais grâce aux Inouïs, à ce qui se passe en ce moment, je vais commencer à être accompagné par des salles qui sont ces choses-là, qui me permettent, moi, où j'en suis en tant qu'artiste, de vivre, d'être avec vous aujourd'hui et pas de vivre de ma musique, mais... de vivre des expériences musicales, en tout cas, d'être avec vous aujourd'hui, que vous ayez pu me voir, d'être là hier, tout ça, ça existe, les Inouïs, Nani et tout, faut pas l'oublier, hein. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pros aux Inouïs et tout, mais tout ça, c'est vos parents qui le payent, en fait, hein. Donc ça existe pour ça, parce qu'il y a des impôts et parce qu'il y a des parties des impôts qui sont reversées là-dedans. Et je me suis un petit peu perdu. Ah oui, la réduction. Tout ça, ça amène l'artiste avec un truc où tu perds sur TikTok, où c'est ciao. C'est-à-dire le libéralisme, en fait. Le libéralisme qui nous vient des Amériques, ce loin pays où on rêve, le rêve américain. Et donc, depuis les Amériques, il y a Instagram, mais TikTok aussi, qui nous vient de Chine. Et donc, il faut réussir là-dessus. Sinon, c'est au revoir. Tu fais tes preuves tout seul, ou c'est au revoir. C'est pas que dans la musique, en fait, hein, ça, c'est le libéralisme. Et ça reste entre nous. Après, j'aime pas trop ça, quoi. Ça n'est pas mes convictions. Après, on n'est pas beaucoup à penser comme ça, en fait, finalement, hein, Lilou. Donc, on est un petit peu en minorité à se poser ces questions-là. Ça a l'air de convenir à tout le monde. Et puis, on a bien vu pendant la période Covid aussi que l'art, c'était pas forcément quelque chose d'essentiel à la société. Ça n'a pas été... Il y avait des choses... Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Il y avait des trucs qui étaient nécessaires. Voilà. Donc, moi, à côté de ça, je gagne ma vie parce que je suis intermittent du spectacle. Je fais des spectacles de rue. Je suis échassier. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Je fais du spectacle de rue gratuit pour tous, payé par les mairies. Donc, c'est encore plus que la musique, quelque chose qui repose sur les subventions. Pas vraiment les subventions, mais l'argent public, en fait. Et ça permet d'avoir des espaces publics, des marchés de Noël, des choses comme ça. Ça permet d'avoir des reines de Noël sur les marchés de Noël. Ça permet d'avoir, je sais pas, tout mon travail, en fait. Et ça, par contre, moi, vu que ça fait longtemps que je travaille là-dedans, 10 ans, plus de 10 ans, je ressens, oui, qu'il y a une diminution, que j'ai moins de travail. Et ce moins de travail, ça signifie moins d'événements. Et puis moi, comme j'ai l'impression de donner des sourires dans mon travail, je m'imagine que ça signifie moins de sourires. Après, il y a des gens qui sourient, hein, devant Netflix chez eux. Mais c'est une grosse question que tu me poses là. Et quelles conséquences ça peut avoir sur ma carrière d'artiste? Je te dis, c'est soit je perce, soit je me trouve un vrai boulot.
Lorsque tu as dit que l'art n'était pas essentiel, c'était une forme d'ironie, finalement, de la situation.
Ouais, carrément. Oui, oui, c'était une forme d'ironie. Non, c'était pas forcément une forme d'ironie, c'était... on vit dans un monde, le monde c'est le rêve de tous les gens qui le composent et la pensée de chacun dans le monde dans lequel on vit s'axe autour de ça quand même, que l'art n'est pas, je sais pas, je vais pas te défendre ça, en tout cas il y a... Je le subis, je peux le réfléchir. Est-ce que quand tu as besoin de manger, tu vas faire un tableau, j'en sais rien. Et pourtant, il y a des gens qui traversent des périodes qui sont très difficiles, qui ont besoin de faire des tableaux. Mais alors, du coup, dans ce cas-là, est-ce que ce qui est nécessaire, c'est de faire, ou est-ce que ce qui est nécessaire, c'est de consommer? Et ça ramène à tout ça aussi, le rapport à l'art. Est-ce que l'art, c'est quelque chose qui se pratique, ou est-ce que c'est quelque chose qui se consomme? Et à la fois, recevoir des spectacles, ça peut... Mais pour rentrer dans ce truc un peu esthétique de « oh là là, j'ai vu une pièce de théâtre qui m'a amené à repenser ma vision du monde », il faut avoir un certain seuil de confort pour arriver là. Bref, mais j'ai plus l'impression que ta question c'était est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans la culture ou est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans des sous-marins nucléaires, et je suis d'accord avec toi Lilou, je préfère la culture aux sous-marins nucléaires, même si ce que je fais sur scène c'est de la bombe.
Surtout que lorsque l'on pousse la chose plus loin, finalement si nous on a été là et qu'on a pu mettre le feu à ton concert, c'est grâce à la région qui a financé totalement notre voyage avec les CMEA. Donc comme quoi finalement ça reste utile, et notamment pour que les jeunes puissent avoir accès à la culture. Et enfin, comment imagines-tu l'évolution de ta carrière dans le futur ?
Eh ben je sais pas, on m'a posé la question plusieurs fois hier et... J'ai l'impression que c'est mon devoir de répondre que j'imagine que ma carrière, elle sera plus grosse, plus grande, plus. Et j'aime bien prendre le contre-pied de répondre que je m'imagine toujours en train de m'amuser avec Marmotte, parce qu'à vrai dire, c'est pour ça qu'on fait tout ça tous les deux. Et c'est vraiment ce que je projette, quoi. Si... nous, on a envie de faire plus de concerts, donc pour ça, il faut qu'on rencontre plus de gens, qu'on trouve plus de budget pour structurer plus les choses et faire plus de concerts. Mais dans l'idée, tout ça, ça reste un moyen pour s'amuser et rencontrer du monde.
Peux-tu nous dire où trouver les infos de tes prochains spectacles, etc.
Et ouais, Mercure Nitro, sur les réseaux, sur Instagram, il y a absolument toutes les infos. Il suffit de me suivre.
Bien, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.